Radio Okapi. Okapi.
Présence croissante de l'armée rwandaise actuellement à la frontière rwando-congolaise, c'est ce que rapporte l'agence France Presse. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, elle, n'a ni commenté ni démenti cette information, d'après l'AFP. Consultation nationale, l'ouverture c'est en principe demain mercredi, mais le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo recommande le report de ses travaux. Pour le CALCT, certains préalables ne sont pas réunis pour un véritable dialogue. Et puis cette inquiétude de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves. La Lisadelle regrette qu'un bon nombre d'enfants n'ont pas repris le chemin de l'école hier. Motif, manque de moyens financiers. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis. L'armée rwandaise a discrètement renforcé sa présence sur la frontière entre le Rwanda et la RDC. C'est en tout cas ce qu'affirme une dépêche de l'AFP, l'agence France Presse. À en croire la même source, depuis jeudi, les habitants de la ville rwandaise de Gisenyi ont constaté des mouvements militaires inhabituels mais discrets aux abords de la cité. Des blindés, des hommes et du matériel militaire ont été aperçus en train de converger vers des positions à la frontière avec la RDC, selon des témoignages recueillis auprès des habitants. Pele Kipela Mundo nous en dit plus.
J'ai vu 5 tanks et des armes lourdes transportées par des gros camions passer près de chez moi. J'habite au bord de la route, je n'en avais jamais vu avant. Ils sont partis en direction de la frontière, affirme Umulisa, villageoise de Ruzini, à environ 15 km au nord de Gisenyi, se confiant à l'AFP. D'après cette femme de ménage, des chars sont également postés sur le mont Rubavu, une colline stratégique qui surplombe Gisenyi. Nous avons l'habitude de passer par la colline pour aller travailler à Gisenyi, mais depuis qu'ils sont là, on n'ose plus y aller. Indique-t-elle. Une journaliste de l'AFP dit avoir vu dimanche un char de combat stationné sur cette colline, les canons tournés vers le territoire congolais. Des véhicules militaires et des armes lourdes ont également été aperçus dans les environs ces derniers jours, ajoute la même source. Interrogée par l'AFP sur la présence croissante de l'armée rwandaise sur la frontière, la ministre rwandaise des Affaires étrangères n'a pas souhaité commenter, mais n'a pas non plus démenti le fait que son pays est en état d'alerte. Le Rwanda est préparé à défendre ses citoyens et son territoire, tout en poursuivant les chemins politico-diplomatiques de concert avec la région, a cependant répété Mme Mushikiwabo.
Par ailleurs, le M23 doit cesser la violence, il doit désarmer comme demandé par le Conseil de sécurité de l'ONU, déclaration de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs. Mary Robinson, qui est arrivée hier à Goma, a rencontré le gouverneur du Nord Kivu avec qui elle a échangé sur la crise qui sévit actuellement dans la province. Au sortir de l'audience, elle a par ailleurs déclaré qu'aux côtés de la réponse militaire, il faudrait une réponse politique pour résoudre cette crise. Ces propos sont recueillis par Denise Lukesso.
Je comprends la frustration, mais aussi je sais que cette fois, on a vu qu'avec Force Brigade et MONUSCO, en soutien de FARDC, on a réussi à empêcher le M23. Maintenant, ils sont affaiblis. C'est clair que le M23 doit cesser cette violence, doit désarmer, comme le Conseil de sécurité a demandé. Mais aussi, je crois qu'il y a une fenêtre de possibilités politiques maintenant. Vraiment, nous sommes très préoccupés, très engagés et très déterminés de travailler avec le gouverneur, avec tout le monde, pour une paix durable. Il faut maintenant qu'on trouve un moyen. On a déjà essayé nécessairement avec une réponse militaire. Heureusement, ça a bien réussi. Maintenant, il y a une fenêtre aussi pour une réponse politique. Vraiment, je vous assure que moi-même, comme envoyé spécial, les Nations Unies, les autres, les États-Unis, l'Union Européenne, l'Union Africaine, nous sommes ensemble engagés avec une solidarité énorme à ce moment.
Mary Robinson a appelé tous les signataires de l'accord cadre de mettre en œuvre les acquis de cet accord. Son agenda prévoit une rencontre avec le président ougandais et rwandais. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs doit également assister au 7e sommet extraordinaire de chefs de l'État de la CIRGL, sommet qui se tiendra jeudi à Kampala. Et puis cette réaction de GED, l'ONG des défenses des droits des journalistes, dénonce des graves menaces de mort proférées contre un journaliste de Goma par les rebelles du M23. Dans un communiqué publié hier à Kinshasa, Journaliste en danger s'est dit extrêmement choqué par ces menaces proférées par le porte-parole du M23, Vianney Kazarama. Selon les recoupements effectués par GED, les menaces du responsable du M23 seraient consécutives à des informations diffusées sur Facebook par Thomas Kubuya, journaliste à Virunga Business Radio, station privée émettant à Goma, sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du Congo. GED demande ainsi à Vianney Kazarama du M23 de retirer ses propos et à tous les groupes armés opérant dans l'est de la RDC de respecter scrupuleusement la liberté de la presse et d'expression dans les localités sous leur contrôle. Politique à présent, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, recommande le report des consultations nationales qui doivent en principe s'ouvrir demain mercredi. Pour le bureau national du CALCC, certains préalables n'étant pas réunis, ces assises ne seront pas un véritable espace de dialogue ouvert et franc et risquent d'être une simple consultation. Vincent Kekolemba, porte-parole du CALCC, au téléphone de Jocelyne Moussaoupondé.
La raison fondamentale qui convoque les concertations, c'est la cohésion. Mais il se fait que cette cohésion recherchée a déjà des germes de confusion et de conflictualité. C'est-à-dire, certains grands partis de l'opposition posent des préalables pour y participer. Et ce préalable ne semble pas trouver une oreille attentive. De deux, la répartition des quotas. Nous sommes en train de parler de cohésion nationale. Et on y va avec la fameuse division consacrée de la majorité et de l'opposition. Et l'opposition, je ne sais pas au nom de quoi, elle va se tailler la part de lion et la société civile. Alors, cette répartition-là me paraît injuste et injustifiée. Parce que là, on parle de la question de la nation. Il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de société. Donc, il faut d'abord vider tous ces préalables-là. Et alors, on pourra fixer la date et être sûr que les résolutions engageront tout le monde.
Concertation nationale encore, avec cette réaction de l'Union congolaise pour la liberté, ce parti politique de la majorité présidentielle qualifie de démission politique et patriotique le boycott de certains partis de l'opposition de ses assises. Son président national, le député Henri Thomas Lokondo, qui l'a déclaré hier à la presse, invite ses pairs de l'opposition de revenir à la raison et contribuer à la réflexion sur la survie de la nation en danger. Il s'est dit également convaincu que dans ce forum, il n'y aura pas de majorité mécanique ou opposition pavlovienne. Henri Thomas Lokondo Yoka, président national de l'UCL, au micro d'Innocent Olinga.
Je considère, moi, le refus d'une partie de l'opposition comme une espèce de démission politique et patriotique face aux attentes du peuple sur un débat de fond et non de forme ou d'humeur sur les grands problèmes de la nation. Vous savez, en politique, ce n'est pas comme en droit. On s'embarrasse pas de la forme, mais sur des questions de fond qui sont de nature, même à balayer d'autres préalables qui sont en train de poser maintenant. Je crois que il faut que tout le monde puisse être là pour que nous puissions réfléchir sur la survie de la nation. Donc, cette concertation, moi j'ai la conviction qu'il n'y aura pas une majorité mécanique ou une opposition pavlovienne. Il y aura des citoyens congolais de même statut qui vont réfléchir sans tabou sur la survie de la nation en danger, en tout point de vue. Dans ce forum, qui est un forum éminemment politique, où il faudrait des gens de haute facture morale et politique. C'est pourquoi moi je regretterais que certains amis de l'opposition que je connais, très brillants, très pointueux, très soucieux du développement intégral de notre pays, ne soient pas là.
Je vous le disais en titre, la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves s'est dit inquiète de constater qu'un nombre important d'enfants n'ont pas repris le chemin de l'école hier, faute des moyens financiers de leurs parents. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi, le président de la LISADEL, qui salue le programme ambitieux du ministre de l'EPSP, estime qu'il est important que le gouvernement congolais alloue un budget conséquent à l'éducation pour que toutes les réformes envisagées dans ce secteur soient effectives et efficaces. Pour Joseph Godet Kaimbe, le ministre de l'EPSP ne peut pas, par exemple, prétendre informatiser les écoles et assurer la gratuité de l'enseignement s'il n'a pas de moyens pour le faire. Joseph Godet Kaimbe au micro de Michel Kifindangoy.
Quand le ministre parle de la gratuité de l'enseignement, il est en train de faire fausse affaire parce que nous risquons d'avoir une chute vertigineuse de l'éducation du fait que les enseignants ne sont pas pris en charge par l'État. Comme vous le savez, avec la participation des parents, comme nous l'avons connu, des enseignants arrivaient à gagner à la fin du mois 200-300 dollars qui leur permettaient de louer la maison et de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Maintenant que le ministre déclare de la gratuité, il ne met pas en place un mécanisme de paiement à la place des parents de la prime. Ça fait que l'enseignant pourra gagner 70 000 francs. Imaginez-vous quelqu'un qui gagne 300 dollars. Parce que c'est l'enseignement gratuit, on lui donne 70 dollars, c'est la catastrophe. Non seulement que l'enseignant sera démotivé, aussi la qualité d'enseignement en pâtit. Donc la situation va se détériorer davantage.
Notez que le président de la Lisadel est l'invité de Radio Kapi ce matin à 8h33, heure de Kampene, dans le Maniema. Et puisque nous parlons de l'enseignement, notez que la rentrée scolaire était timide hier dans la plupart des écoles primaires et secondaires de Mbandaka et ses environs. La commissaire provinciale chargée de l'EPSP a effectué hier matin la ronde des écoles de Mbandaka et de la périphérie pour se rendre compte de l'effectivité de cette rentrée. Jeanne Ebamba parle d'un constat malheureux. Les écoles étaient ouvertes, mais les élèves absents. Jeanne Ebamba au micro de Ghislaine Ntobo.
Le constat que nous avons fait, c'est que la rentrée, elle est effective dans le sens que les portes sont ouvertes. Nous avons trouvé des portes ouvertes, mais nous n'avons pas vu autant d'enfants que nous l'aurions voulu. Les enseignants sont dans certaines écoles, d'autres pas, parce que là, il y a un problème. Les enseignants se sont déplacés pour le contrôle biométrique. Les enfants, ne voyant pas les responsables des classes, sont partis. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants à l'école. Même vous, les journalistes, quand vous posez vos questions maintenant, c'est parce que vous avez étudié. Et le développement d'un pays ne peut pas se faire sans passer par l'école. Notre invitation est que les enfants viennent à l'école, d'autant plus que pour cette année, nous avons revu les frais scolaires à la baisse. Ce qui peut encourager les parents d'envoyer les enfants à l'école.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.